Bonsoir, vous êtes donc à l'écoute de l'émission « Et si demain la permaculture remplaçait l'agriculture industrielle ?» Eh bien, ce serait peut-être pas mal du tout. Et puisque nous avons au téléphone Grégory Derville qui vient de publier « La permaculture en route pour la transition écologique, la solution pour un avenir durable » et c'est paru chez un très bon éditeur qui s'appelle « Terre vivante ». Donc, monsieur Grégory Derville, vous êtes enseignant à l'Université de Lille, spécialisé sur les politiques environnementales, et vous venez de publier chez Terre Vivante « La permaculture, donc en route pour la transition écologique ». Pour vous, la permaculture ne se résume pas au respect de notre terre nourricière. En cultivant autrement nos fruits et légumes, vous allez plus loin dans l'analyse. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Effectivement, c'est en gros la principale idée que je souhaitais faire passer à travers ce livre, c'est dépasser une idée, un petit peu, une vision communément partagée de la permaculture comme une technique de jardinage ou un ensemble de techniques de jardinage. Alors qu'en fait, les techniques de jardinage écologiques ou agroécologiques ne sont qu'une dimension de la permaculture qui est beaucoup plus vaste que ça. La permaculture, c'est à la fois une philosophie de vie, et à mon avis, ça, c'est la dimension la plus importante pour moi. C'est une science, c'est-à-dire un ensemble de concepts, de savoirs sur les écosystèmes, leur fonctionnement, etc. Et puis c'est aussi une méthode, c'est-à-dire une manière ordonnée, progressive, réfléchie de concevoir, qu'on appelle le design, de concevoir des écosystèmes habités, que ce soit des maisons, des jardins, des micro-fermes, des hameaux, etc. Et donc la permaculture, c'est l'art et la manière de s'appuyer sur un certain nombre de savoirs, d'éthique, pour mettre en place des écosystèmes humains qui vont être dotés du coup des mêmes caractéristiques que la nature, parce qu'ils seront fondés sur l'observation de ce qui marche dans la nature. Et de ce fait, ces écosystèmes naturels ont toutes les caractéristiques des écosystèmes naturels, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement résilients, durables, performants, productifs, etc. Ils produisent beaucoup de récoltes, des récoltes nourricières, comme vous l'avez dit, hein, de la nourriture en abondance, mais pas seulement, aussi de l'énergie, aussi de la biodiversité, de la beauté, hein, c'est aussi une récolte. Voilà, c'est tout ça la permaculture, donc c'est à la fois très très large et fondamental, parce que c'est la base de beaucoup d'activités humaines dans beaucoup de domaines.
D'accord. D'ailleurs, non seulement donc vous venez de publier l'ouvrage « La permaculture en route, donc pour la transition écologique chez Terre Vivante », Grégory Derville, mais dans le numéro là qui vient de paraître aussi de Combat Nature, Biocontact, pardon, Combat Nature, c'est un autre mensuel que je connais, qui n'est plus d'ailleurs. Donc, vous avez titré d'ailleurs « Global et durable, la santé aussi ».
Voilà, c'est ça. fait, on m'a demandé de faire un texte sur les interactions, ou plutôt sur le regard que l'on peut porter sur la santé du point de vue de la permaculture. Parce qu'en fait, dans le livre, à un moment, je définis de manière très très simple la permaculture comme la culture de la permanence. Pour moi, c'est la définition la plus courte et la plus simple qu'on puisse proposer de la permaculture, la culture de la permanence. Et ça, bien entendu, ça s'applique dans le domaine de la production de nourriture, mais ça s'applique aussi dans le domaine de la construction de maisons, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'éducation, etc. Et aussi dans le domaine de la santé. Donc on m'a demandé de faire un petit texte sur cette question-là, dans lequel j'oppose... Bon, c'est assez grossier, hein, c'est schématique, mais la manière moderne, occidentale et moderne d'envisager la santé de manière allopathique, de manière peu préventive, en allant assez vite à l'utilisation de médicaments, des issues de la médecine chimique, etc. Et puis une vision plus permaculturelle de la santé, qui est plus fondée sur l'observation des corps, la prévention, une alimentation plus saine, l'utilisation de méthodes pour se soigner, qui sont des méthodes naturelles, qui sont accessibles à tous, et qu'on appelait avant la médecine de grand-mère, hein, ou les jardins de curé avec les carrés de simples, comme on appelait ça autrefois. Donc c'est une bonne illustration, cet aspect-là, du fait que la permaculture va très très au-delà de la simple production de nourriture dans des jardins ou dans des fermes.
Oui, ça me fait penser à une émission, puisque j'ai aussi une émission le vendredi matin qui s'appelle Traversée, où j'ai fait il y a à peu près 15 jours une émission à charge contre les 11 vaccins qui sont rendus obligatoires, parce que c'est dans la même logique et c'est dans une logique qui pour moi est une logique marchande.
Très interventionniste, c'est une logique qui fait assez peu confiance aux vivants en fait et aux capacités des corps à se régénérer dès lors qu'ils sont correctement nourris, qu'ils se reposent correctement, qu'ils se déplacent et qu'ils sont utilisés quotidiennement plutôt que d'être assis dans des bureaux et devant des ordinateurs, etc. Donc c'est vrai qu'il y a deux manières très très différentes d'envisager la santé.
Nous sommes tout à fait d'accord. Vous écrivez d'ailleurs aussi dans votre ouvrage, donc je rappelle le titre parce que c'est important, « La permaculture en route pour la transition écologique parue chez Terre Vivante », donc Grégory Derville. Vous écrivez donc que si les insectes pollinisateurs n'existaient pas, il faudrait dépenser chaque année près de 3 000 euros par hectare et par an pour payer des travailleurs chargés de polliniser les plantes à la main. La biologiste Mélanie Cagour, de l'université de Concordia estime que cela représenterait un coût de 225 milliards d'euros au niveau mondial. Donc c'est à mon avis, alors après vous ne le partagez pas forcément, hein, vous n'avez pas forcément un avis là-dessus, mais ce que veulent les dirigeants et actionnaires des transnationales qui fabriquent les poisons qui inondent nos champs, ensuite ils vendront les contre-poisons, qu'en pensez-vous ?
Alors ça, c'est vrai que c'est une analyse qui est souvent faite, qui consiste à tout simplement constater que bien souvent, les mêmes firmes, à travers différentes filiales, produisent à la fois des molécules qui sont censées faire pousser plus vite ou grossir plus vite des animaux ou des plantes, et qui ont pour propriété aussi, on commence à le savoir bien maintenant, de rendre malades ces plantes, ces animaux, et puis les êtres vivants qui les consomment, donc nous. Et donc les mêmes sociétés ont d'autres filiales qui produisent des médicaments qui sont souvent qui sont chimiques et qui sont souvent issus des mêmes processus de recherche. Ça, c'est vrai que c'est... Après, de là, considérer qu'ils font forcément... qu'ils ont une stratégie pour rendre malade, pour soigner après, ça, je suis pas dans leur... on n'est pas dans le secret de leur stratégie, mais disons que c'est vrai que la coïncidence paraît assez frappante. En tout cas, cet exemple-là, je l'avais proposé, c'était surtout pour illustrer ce qui est l'un des grands principes de la permaculture, qui, moi, me tient beaucoup à cœur. L'idée selon laquelle, du point de vue de la permaculture, il est essentiel d'agir, de se demander si on n'a pas dans le système dans lequel on travaille des éléments naturels qui peuvent remplir exactement la même fonction et le même travail que celui qu'on s'apprête à faire. Et est-ce qu'il n'y a pas, avant de sortir la tondeuse par exemple, ou avant de sortir le motoculteur pour retourner son jardin avant de planter ses patates par exemple, ou ses carottes, je ne sais pas, un exemple au hasard, est-ce qu'on n'a pas des possibilités d'utiliser dans son environnement naturel, ou de stimuler la manière dont la nature elle-même produit un sol qui est est grumeleux, qui est aéré, etc., tout simplement par l'intervention de myriades d'êtres vivants dans le sol, les lombriques, mais pas seulement les lombriques. Voilà, et l'exemple de la pollinisation est intéressant pour ça, parce qu'il nous permet de donner un chiffrage, une estimation du service que nous rend la nature lorsqu'on la laisse fonctionner correctement, sans trop intervenir et sans la détruire à travers l'épandage de molécules toxiques. On se rend compte qu'elle rend aux humains un service qui est extrêmement précieux, extrêmement coûteux s'il fallait payer des individus pour le faire. Donc c'est pour ça que quand on entend des gens dire « bon, voilà, la nature est abîmée, jusqu'à un certain point, c'est pas trop grave, parce que de toute façon, on a des solutions techniques pour remplacer le travail qu'elle nous produit, donc finalement, voilà, elle n'est pas indispensable », quand on donne un certain nombre de chiffres comme ça, ça permet quand même de contester fortement ce genre d'affirmation, quoi.
Tout à l'heure, je passerai d'ailleurs la parole aussi. Il y aura peut-être des réactions à voir. Daniel Rousset, qui est coprésident des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, puisque là, il écoute attentivement aussi ce que vous racontez. Et puis, c'est un convaincu également. Mais vous citez dans votre ouvrage aussi Gandhi, qui soulignait « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Et dans la foulée, vous faites référence à la légende amérindienne que Pierre Rabhi raconte à propos du colibri et qu'ici nous avons raconté un certain nombre de fois, y compris une de nos invités d'ailleurs, Lise Martin, qui est une très bonne auteure, compositrice et interprète. Et donc pour vous, et je partage cet avis, il ne faut surtout pas attendre que tout vienne des décideurs.
Oui, alors ça c'est une évidence. Alors ça ne veut pas dire que rien ne doit venir des décideurs ou qu'il ne faut pas agir ou essayer d'agir pour qu'au niveau des décideurs, on se retrouve avec des personnes peut-être plus sensibilisées, beaucoup plus sensibilisées aux problématiques écologiques et à l'urgence d'agir et de mettre en place des politiques alternatives. Ça c'est un point qui est important, mais c'est certain que si on se contente d'attendre, de militer et de voter différemment, enfin de voter pour des formations politiques sensibilisées à l'écologie et puis d'attendre qu'elles arrivent au pouvoir et qu'elles mènent une politique très alternative, je crains qu'on puisse attendre longtemps. Alors peut-être pas forcément très très longtemps, mais en tout cas trop tard. Donc c'est vrai que en parallèle à ça, il est vraiment important, c'est aussi l'une des invitations de la permaculture, il est très très important de prendre chacun là où on est ses responsabilités pour mettre en place localement des écosystèmes qui soient vraiment résilients, des écosystèmes habités, hein, j'insiste bien, qui soient vraiment résilients et vraiment durables. Donc ça peut se faire selon les tailles, ça peut se faire au niveau d'une petite ville, ça peut se faire au niveau d'un quartier, ça peut se faire au niveau d'un hameau, d'un éco-hameau, d'une ferme, peu importe, hein, au niveau du territoire. Moi, c'est cette notion-là qui est importante pour moi, de faire en sorte que chaque territoire soit résilient, c'est-à-dire produise l'essentiel de sa nourriture, de son énergie, recycle lui-même ses déchets, etc. Bon, et ça, pour aboutir à ce genre d'écosystème habité réellement durable, réellement résilient, les principes de la permaculture nous apportent des solutions, vraiment des solutions concrètes. Alors d'abord des solutions en termes de réflexion, de design, c'est-à-dire de conception de ces écosystèmes, et puis ensuite des solutions plus techniques, c'est-à-dire l'utilisation d'un certain nombre de techniques qui sont efficaces, qui sont durables, que tout un chacun peut s'approprier, construire éventuellement, réparer, dont chacun peut assurer la maintenance. Par exemple, une grelinette, c'est un outil qui est beaucoup plus dans l'esprit de la permaculture, par exemple, qu'un motoculteur, ne serait-ce que parce que chacun peut l'utiliser, le réparer, etc.
Alors, vous parlez de la grelinette. Vous parlez de la grelinette, et justement, j'utilise la grelinette. Alors, je suis pas parfait au niveau. Bah, en tous les cas, dans mon petit potager, les crapauds, avec une mini-mare que nous avons aménagée, les crapauds se régalent et puis se multiplient. Donc, a priori, on n'a pas trop mal réussi malgré tout. Ceci dit, je vais passer Daniel Rousset. Non, tu veux intervenir ou dire quelque chose, Daniel ?
Ben, moi, mon souci, c'est tout de suite, je sens qu'il y a des millions d'hectares qui sont de plus en plus morts. Et à la lutte du CO2 et tout ça, c'est très important. C'est presque aussi important que les bagnoles et le diesel. Donc là, on a un problème mondial qui pour l'instant, qui n'est pas du tout résolu. L'agriculture continue à être intensive avec ses engrais, ses produits chimiques, mais c'est une catastrophe. La terre meurt.
Alors, par rapport à ce que vient de dire Daniel Rousset, quelle est votre réaction, Grégory Derville?
Alors, je ne suis pas complètement sûr d'avoir tout très bien entendu, parce que ça il y a un son qui faisait un peu mal à l'oreille, mais je crois avoir compris. Si jamais je réponds à côté, n'hésitez pas à me le dire. Mmh. Effectivement, je partage ce point de vue. Je prends souvent le train pour aller de la ville où j'habite à la ville où je travaille, où je vais faire cours. Et il y a une zone du parcours qui est une zone extrêmement agricole, mais avec une agriculture très, très intensive, très conventionnelle, pas productiviste, parce que c'est je récuse le terme productiviste pour ce type d'agriculture, parce que c'est une agriculture qui est très peu productive, qui consomme des quantités dingues d'énergie pour produire peu de calories, et en plus des calories peu nutritives, mais bon. Et c'est vrai que ce sont des déserts, quoi. On peut voir des kilomètres et des kilomètres avec les seuls oiseaux, c'est des corbeaux. On voit pas un mammifère qui court là-dedans, ou enfin de temps en temps un lapin. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression d'être face à un désert minéral. Des sols qui se meurent, effectivement. Là, les agriculteurs, qui sont des agro-industriels, enfin, tout sauf des paysans, c'est des agro-industriels, ceux qui travaillent dans ce domaine-là, de mon point de vue, sont clairement des semeurs de mort. Hein. Mais fondamentalement, les concepteurs, les pères fondateurs de la permaculture ont créé la permaculture dans les années 70 à partir d'une réflexion sur l'observation des dégâts qui étaient en train de commencer à produire cette agriculture industrielle et moderne et occidentale qui était en train de se répandre un peu partout dans le monde. Mais ils ont bien insisté sur le fait que même les cultures traditionnelles, qui avaient une agriculture vivrière, eux aussi avaient des pratiques agricoles qui détruisaient leurs écosystèmes et leurs environnements. Simplement, ils étaient tellement moins nombreux, ils se répartissaient tellement mieux sur la surface de la planète et ils avaient des moyens tellement moins invasifs que les nôtres, que les dégradations étaient lentes. Quoique, hein, la Mésopotamie, par exemple, c'est devenu un désert. À l'île de Pâques, on sait très bien ce qu'est devenu l'île de Pâques. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons des moyens qui sont tellement démentiels à l'échelle de l'humanité, en termes de machines, d'engrais, etc., que la dégradation des sols est beaucoup, beaucoup plus rapide. Et on est en train, effectivement, d'arriver à un stade où des centaines de milliers, des millions d'hectares deviennent régulièrement complètement infertiles et en tout cas mettront très très longtemps avant de le redevenir. Donc c'est un enjeu très très important effectivement d'apprendre que partout dans le monde on désapprenne à être dépendant de ce type d'agriculture et qu'au contraire chacun participe de manière extrêmement locale à produire une très grande partie de sa nourriture, sans compter sur les grandes cultures, les grands élevages, etc., en développant beaucoup une production de nourriture qui soit basée sur les plantes pérennes, sur les arbres, sur les fruits à coque, etc., avec des systèmes clos, des systèmes fermés, c'est-à-dire qu'ils sont des systèmes de polyculture où on produit à la fois des légumes, des fruits, et puis des animaux qui viennent amender, fertiliser, qui se nourrissent des restes, etc. Donc des systèmes qui sont infiniment plus productifs à l'hectare, même s'ils ne sont pas productifs par individu, par paysan, mais à l'hectare, ils sont beaucoup plus productifs et surtout, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus durables. C'est les seuls durables, en fait. C'est la seule agriculture vraiment durable.
Nous partageons tout à fait cet avis, en tous les cas dans le studio, puisque moi j'ai encore en souvenir, et c'est pas très vieux, les manifestations des agriculteurs, des agri-managers, des exploitants agricoles de la FNSEA. Alors, il y en a qui sont effectivement petits, tout petits, mais les dirigeants, malheureusement, ils sont cul et chemise avec l'industrie agroalimentaire. Et moi, effectivement, dans mes émissions, nous défendons la Confédération paysanne, l'agriculture biologique. Et puis, d'ailleurs, par rapport à ce que vous dites là, je me souviens dans le film, le documentaire de Colline Serrault, Solutions locales pour un désordre global, Claude Bourguignon parlait bien d'utilisation d'avoir quelque part, et Monsanto en est l'exemple même. Monsanto a fabriqué le défoliant pour le Vietnam, et puis, en changeant un peu la formule, il a fabriqué le glyphosate et tous les poisons qui vont avec. Et quand je vois que, d'ailleurs, des agriculteurs demandent au président de la République, au Salon de l'agriculture, de continuer à utiliser le glyphosate, ils s'empoisonnent et ils nous empoisonnent.
Exactement. Ils sont les premières victimes, puisqu'en fait, ils vivent dans des... sur des territoires qui sont effectivement souvent très très empoisonnés. Ils y vivent. Alors très souvent, ils ne consomment pas eux-mêmes leur propre nourriture. Hein. Personnellement, je connais une personne qui est gérante d'un magasin biologique et qui m'a dit que parmi les meilleurs clients de fruits et légumes de leur magasin, il y a une personne qui est l'épouse du plus gros agriculteur local et qui ne fait quasiment que de la patate en monoculture. Et pourtant, son épouse vient régulièrement au magasin bio acheter les pommes de terre. C'est-à-dire qu'ils savent, beaucoup savent très bien, savent pertinemment le caractère catastrophique, vraiment, sur le plan environnemental et aussi sanitaire de ce qu'ils produisent. Ils le savent très bien, mais bon, après, beaucoup sont pieds et poings liés à leurs emprunts, sont pour des raisons culturelles aussi très très attachés à la vocation agricole, la vocation exportatrice de la France. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui font que c'est souvent difficile de revenir en arrière quand on a passé 10, 15, 20 ans de sa vie à se lancer dans cette agriculture-là. C'est bien dommage parce que la plupart de ceux qui s'engagent, qui se développent, qui passent à l'agriculture bio, qui passent au semis sans labour, etc., sont en général très très contents, ils gagnent moins. Mais par contre, d'abord, ils travaillent beaucoup moins, et puis ils vendent plus cher aussi. Enfin, ils gagnent moins, c'est-à-dire ils produisent moins, mais ils vendent souvent nettement plus cher, et puis ils ont un peu plus de temps libre, parce que la nature travaille en partie pour eux, au lieu d'être toujours... L'agriculture, c'est une des idées que je cite dans le livre, c'est quand même... c'est une pratique qui consiste à la fois à empêcher de vivre des plantes qui veulent vivre, qui sont parfaitement adaptées aux écosystèmes, et qu'on appelle des mauvaises herbes ou des adventices, mais elles sont parfaitement adaptées, et puis pareil pour les animaux, qu'on appelle des ravageurs, etc., alors qu'ils sont parfaitement adaptés à leur écosystème. Et inversement, c'est une activité qui oblige à vivre, qui maintient en vie des plantes et des animaux qui sont totalement souffreteux, qui ont été sélectionnés pour être productifs, mais pour être fragiles et malades, et qui ne pourraient pas survivre, en tout cas pas se développer, pas se reproduire et regrener et se ressemer d'une année sur l'autre, s'il n'y avait pas en permanence un travail pour les protéger. Donc c'est du point de vue énergétique, cette agriculture-là, c'est une aberration. Donc, c'est vraiment. Et la permaculture, elle invite à observer dans les écosystèmes ce qui pousse très bien, ce qui pousse tout seul, ce qui est adapté à l'écosystème, ce qui est pertinent, ce qui est productif, et à s'appuyer sur ses forces de vie pour en prélever une toute petite partie, mais une partie suffisante pour vivre, mais une partie qui laisse aux écosystèmes la possibilité de se régénérer et de se développer. Donc c'est pour ça que la permaculture, sur le plan alimentaire, insiste tant sur les plantes pérennes et sur les arbres. Hein, sur le concept ultime, à mon avis, hein, en termes de sur le plan permaculturel, pour arriver à produire, à nourrir l'humanité de manière durable, c'est le concept de forêt-jardin. Pour moi, c'est une espèce de jardin d'Éden à recréer un petit peu partout dans le monde, partout où il a disparu.
D'accord, merci, et puis au plaisir de vous retrouver sur l'antenne d'Occitanie Première, qui changera peut-être de nom, mais en tous les cas, ce seront les mêmes émissions. Merci, parce que c'est très intéressant, et puis je pense que nous partageons quand même un certain nombre d'idées, parce que comme je le dis, mes émissions, elles ont un engagement. Je fais du journalisme d'opinion et pas quelque chose de tiède. Non, là, aujourd'hui, il faut agir, et il faut agir rapidement. Merci, Grégory Derville, donc je rappelle votre ouvrage, La permaculture en route pour la transition écologique, paru chez Terre Vivante.
Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et donc, nous allons écouter dans la foulée. Après, nous retrouverons Daniel Rousset, mais avant, Ridane qui nous chante L'agriculteur. À tout de suite. Donc, avec Ridane, l'agriculteur.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en J'en ai ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Ce coin de soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Le bleu me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
Adicias, bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Et si demain, le nucléaire à la poubelle, mais alors recyclé complètement, il y en a marre pour produire autrement, notamment ce que fait d'ailleurs Enercop avec de l'énergie plus écologique, plus propre, mais forcément ce qui ne produit pas de pollution, c'est à la limite le kilowattheure que nous n'avons pas consommé. Et donc, nous avons dans le studio Daniel Rousset, donc coprésident des Amis de la Terre à Midi-Pyrénées, mais aussi animateur du réseau Sortir du Nucléaire. Et nous parlions, là, juste pendant que Ridan chantait l'agriculteur, justement, à Toulouse, eh bien, il y a eu la ZF où ils ont fabriqué au départ, enfin, ça s'appelait pas la ZF, d'ailleurs, ça s'appelait l'ONIA, fabriqué des poudres, des explosifs, des armes pour lutter pendant la guerre. Et puis, la guerre a fini.
La guerre de 14.
Voilà, la guerre de 14. Donc, les Allemands avaient cédé, je crois, le brevet. Et donc, par la suite, ça s'est transformé en nitrates, donc, qui sont des engrais chimiques. Et forcément, si certaines et certains se sont étonnés de l'explosion, ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque ils ont recyclé aussi, comme l'a fait Monsanto par ailleurs, ils ont recyclé l'armement pour en faire aussi quelque chose de mortifère au service de l'agriculture industrielle.
Eh oui, la chaîne est bouclée.
La chaîne est bouclée. Et là, tout récemment, il y a eu l'expulsion de zadistes à Bure. Bure, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que cette affaire, Daniel Rousset ?
Ah ben, depuis, moi je sais pas, depuis, il y a par exemple, il y a 35 ans à Golfech, quand il y a eu le projet de Golfech, dans l'enquête d'utilité publique, on nous a dit, mais les déchets, mais on va savoir résoudre. Pas de problème. La science va progresser et on va trouver la solution. Ça, c'était il y a 35 ou 40 ans. La solution, on ne l'a pas aujourd'hui. On ne l'a pas trouvée. Alors l'idée, c'est la ménagère qui met la poussière sous le tapis, mais on se prépare à une catastrophe extraordinaire. Donc Bure, c'est une zone peu peuplée, et on a découvert une grosse masse d'argile. Donc l'idée est de mettre nos déchets à très haute radioactivité, à très haute activité, dans cette argile à 500 mètres sous terre, dans des centaines de kilomètres, dans des alvéoles. Cette opération va durer peut-être un siècle. On se prépare à peu près 1 million de mètres cubes de déchets hautement radioactifs ou moyennement radioactifs. Ces déchets, soyons bien clairs, si vous êtes à plusieurs mètres de ces déchets, vous mourrez. Ce n'est pas de la bricole. La Meuse est bien sûr cette zone et le départ de la Seine. Donc s'il y a le moindre pépin dans les millions d'années qui vont suivre, la Seine sera polluée. Parce que là, c'est pas des siècles qu'on parle, c'est des milliers de siècles, des millions d'années. Les transuraniens qui sont dans qu'on ne sait pas quoi faire, leur durée de vie, leur moitié de durée de vie, c'est de l'ordre des centaines de milliers d'années, pour diminuer de moitié leur radioactivité. Donc là, on est sur une échelle complètement hors. C'est même plus les Égyptiens ou on n'a pas. C'est le néolithique là. On est plus à l'échelle. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est extraordinaire. Imagine que tous ces colis, ces millions de mètres cubes, je suis certain. Là, je vous expliquerai après la preuve, tout de suite aux USA ou en Allemagne. Je suis certain qu'il y aura des accidents. Et donc là, c'est bien clair, ça va être réversible seulement pendant un siècle. C'est-à-dire que pendant un siècle, on pourra, à la rigueur, aller rechercher à 500 mètres sous terre les colis qu'on y a enfouis. Un siècle seulement. Mais après, on va murer dans ces alvéoles qu'on aura frais dans l'argile, dans l'argilite d'ailleurs. Résultat, aujourd'hui, c'est clair, on ne peut pas être sûr qu'il ne va rien se passer pendant 500 000, 1 million d'années. On est sûr qu'il va se passer des choses. Le sol, il va bouger. Donc là, on va dans une bêtise incommensurable. Alors c'est vrai que nous, en soi-disant, la nucléocratie française sera contente, elle aura résolu le problème. Mais elle n'aura rien résolu du tout, du tout, du tout.
Oui, de toute façon, Ce sont des questions qui reviennent toujours, qui sont à l'ordre du jour et qui, on va dire, entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, il y a eu pas mal de passerelles. Et en France, bien sûr, je rappelle que nous avons eu la fameuse force de frappe que défendait le général de Gaulle. Et depuis, c'est le nucléaire qui s'est imposé. C'est une forme de dictature. Juste parce que j'ai oublié de le faire, et quand même, je vais saluer au passage mon ami, notre ami Landy Sella, qui peut pas être là ce soir et qui avait même des questions à poser à notre invité tout à l'heure, Grégory Derville, et bien sûr à toi aussi, Daniel. Et puis Céline Boussier, qui est une lanceuse d'alerte et qui a accepté de marrainer ou de parrainer l'émission Ici Demain et Traversée et aussi Cap et Cap. Donc je les salue au passage. Mais ceci étant, là dans cette affaire en plus, je vois que de plus en plus, alors malgré tout, il est encore très bien défendu, mais Nicolas Hulot n'est plus crédible.
Tout de suite, on a retrouvé une image, une photo de Nicolas Hulot il y a 2 ans, dans lequel il exprimait très clairement qu'il ne voulait pas Bure. Bon, ben là, il a un petit peu oublié. Hein. C'est dramatique parce que la réversibilité n'existe plus dans cette solution. Donc, on va à la catastrophe, c'est sûr et certain. Je voudrais expliquer 2 choses. Il y a aux États-Unis. On a bien sûr enfoui, à partir de 1999, dans des mines de sel à 600 mètres sur terre, à 600 mètres sous terre, les déchets nucléaires militaires américains. Ça, c'était en 1999. En 2014, il y a eu un premier incendie. On ne sait pas pourquoi. Un colis qui a fissuré, explosé. Et depuis donc 3 ans, c'est seul. Zone d'enfouissement des déchets américains est arrêtée. Alors, ils ont trouvé plus ou moins... Il y a eu entre les colis qui ont fui et puis le sol, il y a eu une réaction chimique. Parce qu'il faut bien comprendre, ces colis... on a de l'aluminium, du cuivre, mais au bout d'un certain temps, ça se fissure. La radioactivité continue dans ces colis. Ils ne sont pas neutres. Ça continue à vivre intensément, la chaleur, des gaz. Et donc, on est sûr qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça, c'est aux États-Unis. 1999, 2014, depuis 2014, il y a eu d'ailleurs une trentaine d'employés qui ont été irradiés, alors qu'ils étaient à plus de 3 km de l'enfouissement, des niches d'enfouissement. Donc ça va mal. Après, on a l'Allemagne. L'Allemagne, qui pendant un certain temps était aussi à la pointe du progrès. Ça, c'était vers les années 1967. De 1967 à 1979, les Allemands ont mis leurs déchets nucléaires dans la mine de Haas, en Basse-Saxe, dans du sel, des anciennes mines de sel. Génial, l'idée était bonne. Le sel, bon, à rigueur, c'est une fois que c'est presque tranquille. Manque de peau depuis cette année-là, l'eau arrive à plusieurs mètres cubes tous les jours. Et nos colis, qui sont, il y en a quand même 150 000 ou un truc comme ça, qui sont enfouis dans cette mine de sel, et bien tout de suite sont recouverts d'eau. Et puis les galeries s'effondrent, c'est un gruyère cette usine, ce lieu de Haas. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui ce que sont devenus ces colis. Il va falloir, la décision va être prise rapidement en Allemagne. Il va falloir les retirer. 150 000 colis, bidons et autres machines à retirer. Donc aujourd'hui, les 2 seules expériences que l'on a d'enfouissement des déchets nucléaires dans la Terre ont échoué. Je sais bien que nous, les Français, on est les meilleurs. Mais moi, j'ai vu l'argilite, là, cette argilite. Je l'ai eu dans les mains. Et on peut taper avec un caillou, un marteau, ce que vous voulez. Il y a une petite étincelle. Bizarre. Et donc, c'est pour ça que tout de suite, par exemple, l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nationale, le nucléaire, vient de poser le problème des fûts bitumineux. C'est-à-dire des fûts qui sont du bitume. On a mis les déchets nucléaires dans du bitume. Et là, il y a un risque inflammatoire, important, d'incendie. Et un incendie à 500 mètres sous terre, on peut pas, les Américains ont échoué, on ne peut pas l'arrêter. Alors donc tout de suite, ils ont découvert qu'il va falloir faire des colonnes de ventilation un peu partout, sur 500 mètres de haut. C'est pour ça que ce fameux bois, le jug, devient des raisins, parce que c'est là qu'on va mettre les sorties d'air. Impeccable. Sauf que dès qu'on fait des trous, des ventilations, c'est le gruyère qu'on augmente. Donc nos petites cellules dans lesquelles il y aura vont bouger, ça va pas tenir stable pendant des millions d'années. Là, on se suicide, là. On suicide nos générations futures. Alors que, je vais t'expliquer une petite chose intéressante. Je suis bavard aujourd'hui. Hein. Le même jour qu'on faisait une manif un peu partout, devant tous les préfectures de France, pour dire non. D'ailleurs, 500 gardes mobiles qui sont arrivés dans ce bois, le Juc, pour 15 personnes. Il y avait simplement 15 résidents dans cette forêt, dans ce bois, le Juc. D'ailleurs, petit appendice, l'État, Areva, n'en est pas propriétaire de ce bois, le Juc. Tout de suite, on est en conflit, en justice, parce qu'il y a eu des magouilles extraordinaires du conseil municipal qui a vendu, mais en faisant des manifestations. Enfin, le conseil municipal s'est réuni à 7 heures du matin. Il n'y avait pas tout le monde. Enfin, c'est un sac de nœuds incroyable. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas propriétaires. Donc là, il n'y avait pas tellement besoin d'envoyer 500 gardes mobiles pour déloger 15 personnes. Ou la maison de la résistance, ils sont rentrés dedans sans autorisation. On va les passer en justice aussi également. Parce que là, c'est, bon, la justice, c'est le rapport de force. Donc, comment que nous, tout le monde, se faisait des manifs devant les préfectures, comme 80 préfectures ont été touchées par des petites manifs. Bon, à Toulouse, on était 150. Bon, OK. Mais il y avait aussi un escadron complet de CRS, sur 80 CRS, 15 quarts, la cellule, enfin, tout. Magnifique. Moi, j'ai vu je surveille les médias mondiaux, et figurez-vous que Orano, c'est maintenant l'ex-Areva, hein, il a un nouveau nom, ça fait plus norme, faut faire mieux, c'est pas mal, faut changer. Bon. Eh bien, ils viennent de signer un contrat de fourniture de solutions d'entreposage de combustible usé aux États-Unis. Donc, Areva, aux États-Unis, a signé un contrat de plusieurs, quand même, de millions de dollars, hein, dizaines de millions, pour une société de combustible américain, faire de l'entreposage à sec. Quand même extraordinaire. Orano sait faire ça, elle a les brevets, elle les vend aux États-Unis, et nous, on va enfouir. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, à part ce waste-là au Nouveau-Mexique, ils n'entreposent pas. Ils ne s'enfouissent pas. Ils entreposent dans des hangars à sec. Bon, si possible, un peu en dessous du niveau. Enfin, bon, c'est pas infaisable. L'idée, moi, je ne veux pas dégérer les déchets, mais maintenant, on en a. Donc, la solution qui est proposée n'est pas si stupide que ça. C'est de dire, bon, ben, aujourd'hui, on les laisse dans leur cylindre, là, dans leur... Bon, mais après, on sait que dans un siècle, ces cylindres, ces colis vont s'ouvrir. Donc à ce moment-là, on retirera, on changera l'enveloppe. Ça, on sait faire. Retirer, remettre. Mais au moins, on a une possibilité encore de réversible et on peut contrôler. L'idée, c'est de surveiller ce qui se passe. L'enfouir, vous ne surveillez plus rien. Et le sol, la nature bouge. Le sismique bouge sur des centaines de milliers d'années, il va se passer des choses. Donc là, nos futures générations, on n'est pas capable aujourd'hui de retirer les 150 000 colis de Haas ou les colis des États-Unis. Là. On ne va pas être capable de retirer à 500 mètres dans l'Archil 1 million de mètres cubes de déchets nucléaires. Donc on va le laisser. On va pourrir, ça va s'infiltrer. La nappe phréatique sera polluée. Et ce n'est pas la petite radioactivité, c'est de l'activité haute. C'est le summum de ce qui est dégueulasse. Voilà. C'est nos générations futures vont se suicider à cause de notre connerie. extraordinaire quand même. Moi, je trouve que les jeunes qui tout de suite occupent, parce qu'ils sont revenus maintenant dans le bois logique, hein, ils sont revenus. Ils ont une cause juste, ils défendent même pas leur argent ou leur vie, ils défendent l'avenir. Moi, je pense que là, ça mérite autre chose que d'envoyer 500 gardes mobiles. Parce que tout de suite, l'État français, qu'est-ce qu'il fait? Il veut les criminaliser, ces gens. C'est les méchants, c'est les voleurs, c'est les violents. Il n'y a eu aucune violence durant le mardi dernier. Là. Ça s'est passé calmement. Hein. Il n'y a pas eu de violence. Donc, on criminalise quelques jeunes qui sont porteurs de la vie de demain pour quoi? Pour Et en plus, ça va nous coûter à peu près 20 ou 30 milliards pour enfouir. Parce qu'il va falloir les faire, ces kilomètres de tunnels dans de l'argile. Il y a déjà eu deux ou trois morts, hein, quand même. Bon, j'y détaille, quand ça se casse la figure, c'est l'ensevelissement aussi des hommes. Donc voilà notre bêtise est sans limite et la France est incapable aujourd'hui de s'arrêter, de réfléchir, de dire bon bah peut-être que l'enfouissement c'est pas la solution, la bonne solution. Essayons de le faire simplement, on contrôle, on garde ça en surface ou en subsurface et à ce moment-là on peut pendant au moins un siècle ou un peu plus reconditionner si on voit que nos fuites. Voilà.
Merci Daniel Rousset pour ces précisions. C'est pas très réjouissant, mais c'est une réalité. Mais c'est jouer l'autruche aussi, hein, d'enfouir, de cacher, de mettre la tête sous la couette, que sais-je. Mais ça ne résout pas les problèmes. Et effectivement, 15 zadistes face à 500 hommes bien armés, quelle démocratie, nous pouvons nous interroger. Et c'est aussi peut-être ce que chantent HK et les Saltimbanques, parce que c'est à écouter, même si c'est dans notre playlist, sans haine, sans armes et sans violence, c'est quand même, ça vaut le coup de l'écouter. À tout de suite.
Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. prédicateur de la sainte finance. Toxicomane, accro à la croissance. Nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe, blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables? Nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables? Nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes.
Avise à la population, vous écoutiez HK et les saltimbanques sans haine, sans armes et sans violence. Et pourtant, la violence dans cette société, elle y est partout, y compris dans le stockage des déchets radioactifs, en tous les cas des projets, des centrales nucléaires et de plein de choses encore. Il existe des alternatives, mais malheureusement, la force de frappe de ceux qui détiennent le pouvoir, la finance et tout ça est terrible malgré tout, Daniel Rousset. Alors, nous avons parlé de l'enfouissement des déchets et c'est dramatique, le projet que le gouvernement avec les atomes qui se promènent un petit peu partout, qui tire les ficelles. Avant, ça s'appelait Arriva. Maintenant, ça s'appelle autrement. Et d'ailleurs, c'est nous qui payons le déficit. Comme nous payons aussi les réparations des routes et compagnies que certaines de la FNSO ont détruites. Et là, on n'a pas vu d'intervention des forces de l'ordre, alors que dans un certain nombre de cas de manifestants qui posent des questions de fond sur nos sociétés aujourd'hui, eux sont marginalisés, montrés du doigt, mais parce qu'ils sont dangereux peut-être pour le système actuel.
Ben oui, ils sont porteurs de quelque chose qui les remet totalement en question, mais malheureusement, c'est tous ces lanceurs d'alerte, ben, ils rament quand même quelque part. Je fais partie des gens qui, il y a 40 ans, étaient à Golfech pour dire non à Golfech, ou dire non aux militaires, aux nucléaires militaires. Mais bon, malheureusement, le rouleau compresseur est très très fort de l'autre côté, avec une force de frappe. Nous, associatifs, on est... Alors, c'est vrai que c'est réjouissant de voir que partout, il y a des choses qui se passent, des coopératives, des gens qui bossent, qui quittent leur métier, qui font autre chose, qui essayent de trouver toute une convivialité extraordinaire. Mais on a en face de nous un gros bloc là, qui est très structuré, très solide, qui a les moyens, qui sans pas de conscience, ils foncent. Et là, on est mal, hein. Et donc, par rapport à cela, malheureusement, ben, je suis désolé, mais la population somnole. Elle est un peu étouffée dans la consommation. Elle est étouffée dans les médias qui nous disent n'importe quoi et pas ce qui est important. Donc là, on est mal parti. Hein. Je suis désolé, je suis un peu vieux et pas optimiste, mais là, il va falloir se réveiller. Alors, est-ce qu'on arrivera à se réveiller avant la catastrophe? Eh ben, on a déjà eu Tchernobyl. Voilà, il y a 37 ans, on a eu Fukushima, il y a 7 ans, et bien là, tout de suite, je fais partie des gens qui ont peur qu'une centrale nucléaire en France pète. Elles sont de plus en plus vieilles, donc avec des tas de problèmes techniques. Presque les 90% des ouvriers qui travaillent sur ces centrales sont en sous-traitance, à 3, 4, 5 niveaux. Leur formation est quasiment inexistante. Maintenant, on a simplement des textes à lire et à appliquer. On ne connaît plus, les ouvriers ne connaissent plus vraiment leur machine comme étaient les premiers salariés du nucléaire. Donc là, on va statistiquement même vers la catastrophe en France.
Alors, Daniel Rousset, je rappelle que tu es coprésident des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, que donc, si vous tapez Amis de la Terre Midi-Pyrénées sur un moteur de recherche, vous pouvez retrouver plein d'informations, y compris, donc, puisque tu fais partie des animateurs du réseau aussi, sortir du nucléaire. Et donc, plein d'informations qui circulent, mais pas forcément dans les plus grands médias. Donc, ici, nous faisons notre part du Colibri à Occitanie Première, dans le cadre des émissions. Et si demain, le mardi, entre 17h et 18h, et traverser le vendredi matin entre 10h et midi aussi en direct. Et après, il y a les podcasts. Et d'ailleurs, il y aura une rediffusion de « Et si demain ?»« Et si demain ?» Demain, par exemple, on se le met à... Allez, on se dit 13h.
Là pour 13h.
Allez, va pour 13h demain avec « Et si demain ?» Et puis vendredi, nous aurons au téléphone aussi Gilles-Éric Serralini, qui est le chercheur qui a notamment avec son équipe démontré la toxicité des OGM, du glyphosate. Et puis nous aurons aussi un paysan qui fait du fromage de brebis bio. Mais là, il louait les terres sur sa ferme. Mais la propriétaire, je crois, je ne sais pas si elle n'est pas décédée. Donc c'est... cette ferme va être mise en vente. Il viendra nous expliquer comment, éventuellement, nous, en tant que citoyennes et citoyens, nous pouvons l'aider à acheter les terres. Donc, forme de coopérative, peut-être, pour continuer, comme ce que fait d'ailleurs Terre de Liens par ailleurs. Voilà, donc il y a des choses qui existent, il y a des solutions, mais c'est pas gagné et il faut être très vigilant et se battre. Et puis, voilà, dire que tout n'est pas perdu. Mais il y a du taf. Merci Jean-Loup Arzac-Fraisse, parce que j'ai oublié de te remercier d'ailleurs en début d'émission. Merci pour la réalisation, parce que sans réalisation, pas d'émission. Merci Daniel Rousset d'être venu en direct donc dans Et si demain. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Et nous disons à la semaine prochaine pour Et si demain, et à vendredi matin pour traverser entre 10h et midi. Bye bye. Merci.